Mes chers amis, compte tenu de l'angoisse de plus en plus sensible qui règne dans notre monde, compte tenu du fait aussi que nos enfants et nos jeunes ne sont plus évangélisés, je vous ai envoyé un certain nombre de réflexions pour nous obliger non seulement à réfléchir, mais également à essayer de prendre quelques bonnes décisions. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de notre Père du ciel et d'Internet. Un message qui m'était arrivé spontanément m'avait même obligé à vous poser la question « Notre Père du ciel serait-il aussi un brin écologiste ?» J'ajoutais même « Mais n'y a-t-il pas là aussi de nouveaux sujets à approfondir ? Dieu, son écologie et la morale ? Ou encore l'écologie est-elle la manifestation de la volonté de Dieu, donc de la morale ?» Vous connaissez certainement un des derniers livres que j'ai écrit, « La loi de Dieu », que vous pouvez acheter en passant par le site alexdiffusion.free.fr. Incontestablement, la loi de Dieu est la loi du bonheur. Et cela, nous le constatons de plus en plus. Nos erreurs écologiques conduisent actuellement notre Terre au bord de plusieurs gouffres, notamment la pollution dramatique des océans, de l'air, ou encore la mort des abeilles, le dérèglement des climats, ou l'arrêt de certaines cultures qui pourraient conduire à de graves pauvretés, voire à des famines. Je pourrais aussi parler des incendies gigantesques qui ravagent des pays. Je pense notamment à l'incendie qui sévit au Canada, dans la province de l'Alberta, et qui a imposé l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. Je n'insiste pas, vous êtes parfaitement au courant. Et vous avez constaté, tout comme moi, que chaque fois que les nations chassent Dieu, elles tombent dans l'immoralité, puis dans le malheur et l'esclavage. Alors que faire? Vous, mes amis, qui êtes en lien avec les sites Radio Silence et Nouvelle Évangélisation, vous avez tous constaté que les hommes, depuis plusieurs générations, ont chassé Dieu de leur vie. En France, ce que nous appelons le siècle des Lumières, au XVIIe siècle, a répandu partout ces erreurs dont les conséquences furent les révolutions et le socialisme. Et à chaque fois, les chrétiens, surtout les catholiques, furent persécutés. Nous devons ajouter que ce qui s'est passé en France a également été vérifié dans de nombreux autres pays, européens ou non. Ainsi, depuis le début du XXe siècle, nous avons assisté aux persécutions du Mexique, aux génocides liés au communisme et au nazisme, à la guerre civile en Espagne, puis à la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, le communisme continue ses ravages en Chine et en Corée du Nord et dans certains pays d'Amérique latine. Et maintenant, l'Europe, via les migrants musulmans, est en passe de devenir, comme cela l'a été au cours des siècles, un état de l'islam, donc persécuteur des chrétiens. Si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que partout où l'islam passe, cela se produit. Entre parenthèses, il est bon de relire l'histoire des conquêtes de l'islam partout dans le monde. C'est hallucinant, mais la plupart de nos contemporains l'ignorent. Mes amis, pendant longtemps, les catholiques ont parlé du règne de Dieu. Mais le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est, sinon la loi de l'amour, donc la loi de Dieu, loi du bonheur? Dans son livre « Venez à moi au Saint-Sacrement », le père Martin Lucia écrit, se référant à Jésus présent dans le Saint-Sacrement. « Le cœur eucharistique de Jésus est le seul lieu de sécurité, de repos et avant-goût ici-bas de ma demeure éternelle avec toi pour toujours. » Vraiment, quel bonheur de penser que des gens peuvent écrire de telles choses. Et quelle joie encore plus grande de constater que beaucoup de personnes, surtout des personnes nouvellement converties, pensent la même chose et que toutes le disent, certes avec des mots ou des expressions différentes en fonction de leur culture. Voici quelques exemples exprimés par ces personnes parlant à Jésus dans son Eucharistie. Jésus, oui, ton cœur eucharistique est vraiment le lieu de ma sécurité et de mon repos. Ou encore, Jésus, tu es vraiment ma sécurité et mon repos, même quand je travaille. Oui, près de toi, je me sens en sécurité et je n'ai plus peur de rien. Ces personnes vivent en permanence en plein mystère, car Dieu est mystère et ceux qui le cherchent et l'aiment vivent aussi en plein mystère. Ainsi, nous vivons tous en plein mystère. Tout cela m'entraîne encore plus loin, et je pense qu'il est consolant et réconfortant de voir que les plus grands saints se sont heurtés aux mêmes difficultés que nous. Eux aussi, vivant en plein mystère, ne comprenaient pas, et pire, ne savaient pas exprimer ce qu'ils ressentaient ou vivaient. Ils n'avaient pas de mots pour dire leur vie en Dieu. Ils se sentaient perdus en Dieu, perdus, et cependant en sécurité. Alors, était-il lucide ou rêvait-il? Notre monde méprise de plus en plus ceux qu'autrefois l'Église appelait les mystiques. Pourtant, et cela personne ne peut le nier, tous les saints, même les plus actifs, furent tous de vrais mystiques. Pour essayer de comprendre l'incompréhensible, nous allons contempler Jésus au milieu de ses apôtres lors de la dernière scène. La Pâque juive que Jésus a célébrée avec ses apôtres vient de s'achever. Maintenant, Jésus les fait tous asseoir autour de lui, car il a des enseignements très importants à leur délivrer. Il doit aussi leur parler du don le plus grand qu'il puisse leur faire, leur donner sa vie, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus parle. Il dit à ses apôtres les choses sublimes qui feront leur force. Plus tard, les choses de l'amour divin qu'ils ne comprennent pas encore. De plus, aujourd'hui, ils se contentent encore d'aimer leur maître, mais en se fiant à leurs seules forces humaines. Alors Jésus les avertit, priez sans cesse afin de ne pas succomber à la tentation. Mais Jésus sait parfaitement qu'ils tomberont, que tous les hommes tomberont, tous, car Jésus sait aussi que par eux-mêmes, les hommes ne sont que faiblesses, et que ce sont seulement leurs chutes qui les rendent humbles. Car alors, il leur est impossible de se glorifier, il leur est impossible de se trouver meilleur que les autres. Tous les hommes sont pécheurs. Jésus parle, et le cœur de ses disciples brûle anormalement. Ils sentent que son amour dépasse infiniment n'importe quel amour humain, si grand soit-il. Le cœur des apôtres brûle, car l'amour de Jésus, son amour eucharistique, est prêt pour le plus grand sacrifice que seul Dieu incarné peut accomplir. Jésus rend grâce au Père, son cœur loue le Père et bénit sa volonté. Tout est accompli, il va donner son corps et son sang en nourriture pour tous les hommes affamés de Dieu. Les apôtres regardent Jésus qui rompt et partage le pain en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ils ne comprennent rien et deviennent de plus en plus perplexes lorsque leur maître ajoute, tenant une coupe pleine de vin, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour vous. » Les apôtres boivent le vin tout en regardant Jésus. Décidément, depuis quelques jours, ils ne comprennent plus leur maître. Ils ne comprendront ce qu'il vient de faire que dans quelques jours après sa résurrection et surtout après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit promis aura rempli leur intelligence et leur cœur. Et nous ? Nous qui vivons au XXIe siècle, après la naissance de Jésus, nous qui connaissons l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le salut qu'il nous a donné, comprenons-nous vraiment, comprenons-nous que l'Eucharistie que nous recevons souvent, c'est déjà la croix, c'est déjà l'amour que Jésus donne aux hommes pour les délivrer du mal, du péché, pour les sauver tous. Si nous sommes honnêtes, nous non plus nous ne comprenons pas très bien. Nous savons seulement que Jésus, le Verbe de Dieu, a sauvé tous les hommes, mais qu'il veut aussi que nous participions à notre rédemption en croyant en lui et en son Eucharistie. Certes, nous savons que nous devons rester fidèles à ses enseignements et à son commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais cela ne supprime pas l'amour que nous devons rendre d'abord à Dieu. « Dieu premier servi », disait Jeanne d'Arc. Alors pourquoi notre monde rejette-t-il le commandement de l'amour? Pourquoi notre monde ne veut-il plus de Dieu? Et surtout, pourquoi notre monde, qui ne sait plus aimer ni Dieu ni les hommes, préfère-t-il l'immoralité et la haine qui conduisent au malheur ?